Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 12 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. La milice terroriste qui décapitait les Iraniens sur l'ordre CIA Mossad. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le leader de la révolution remercie les Palestiniens des camps syriens pour leur message. Réunion des terroristes de l'OMK, le chef de la diplomatie de l'Union européenne regrette les propos tenus par le premier ministre slovène. JCPOA, le ministère iranien des Affaires étrangères, a soumis son dernier rapport trimestriel à l'Assemblée islamique. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution remercie les Palestiniens des camps syriens pour leur message. Suite au message d'un grand nombre de Palestiniens vivant dans des camps syriens, adressé à l'occasion de la victoire du peuple palestinien et de sa résistance dans la guerre de 12 jours contre le régime occupant Rhodes, et à leur remerciement présenté au guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et au peuple de l'Iran pour leur soutien sans faille à la nation opprimée palestinienne, le leader a affiché son appréciation et sa gratitude envers cette missive. Selon le rapport du dimanche 11 juin de l'IRNA, le responsable adjoint des relations internationales du bureau du guide suprême de la République islamique d'Iran a écrit une lettre à Mohammad al-Baissi, président de l'Association d'amitié palestino-iranienne, où il fait part des remerciements du leader. L'opération Saif al-Rous était une petite manifestation de pouvoir et de l'autorité potentielle et accumulée du front de la résistance, peut-on lire dans la lettre. Au cours d'une conversation téléphonique avec Joseph Borrell, Zarif condamne le discours du premier ministre slovène au meeting de l'organisation terroriste MOK. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, et a condamné l'action inacceptable du premier ministre slovène lors d'une réunion virtuelle du groupe terroriste OMK. Suite à l'intervention anti-iranienne du premier ministre slovène au meeting virtuel de ce groupe terroriste, étant donné que le pays exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une conversation téléphonique avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a condamné l'action inacceptable du premier ministre slovène et a appelé à une clarification de la position de l'Union européenne sur cette question. En réponse, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a regretté que les remarques du premier ministre slovène et ce qui a été dit lors de la réunion ne soient en aucun cas la position de l'Union européenne sur les relations avec la République islamique d'Iran. le chef de la diplomatie européenne, ajoutait que la position de l'Union européenne au niveau des chefs d'État n'était exprimée que par le président du Conseil européen et au niveau des ministres que par le haut représentant, et que les propos du Premier ministre slovène n'étaient en aucun cas conformes aux positions officielles de l'Union européenne. Le 11 juillet, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice de Slovénie à Téhéran pour lui transmettre la vive protestation de l'Iran et afin de lui demander les explications du gouvernement slovène à propos de ce geste interventionniste. JCPOA ou l'accord nucléaire de 2015, le ministère iranien des Affaires étrangères a soumis son dernier rapport trimestriel à l'Assemblée islamique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a présenté à l'Assemblée islamique le 22e et dernier rapport trimestriel sur la mise en œuvre du JCPOA au temps du gouvernement Rouhani. Le ministère iranien des Affaires étrangères a présenté à l'Assemblée islamique son 22e et dernier rapport sur les dernières évolutions liées au JCPOA. Ce rapport en 213 pages et en 14 articles et avec diverses annexes concerne le processus de mise en œuvre de l'accord nucléaire ces dernières années et le dernier statut des négociations à Vienne qui envisage de relancer cet accord international. Ce rapport de la diplomatie iranienne comprend les résultats de l'accord nucléaire et de la mise en œuvre du JCPOA, les efforts sincères de l'Iran pour respecter ses engagements, le non-respect de la responsabilité américaine, le retrait américain du JCPOA en 2018, les actions inefficaces des Européens après le retrait américain, la guerre économique à grande échelle du gouvernement américain contre le peuple iranien, utilisation de mécanismes prévus dans l'article 36 du JCPOA pour résoudre les différends, réduire les obligations fondamentales de l'Iran en réponse au retrait américain après l'adoption de la loi l'action stratégique pour lever les sanctions par l'Assemblée iranienne, protéger les droits du peuple iranien, vaincre la politique d'oppression maximale, les slogans du Parti démocrate américain pour revenir au JCPOA, documenter la nécessité de lever les sanctions, les positions de l'Iran au cours des récents pourparlers de Vienne. L'article 13 de ce rapport concerne les récents pourparlers de Vienne entre l'Iran et les États signataires du JCPOA pour relancer cet accord. Dès le début de l'année iranienne 1400, depuis mars 2021, le gouvernement de la République islamique d'Iran a entamé 6 cycles de négociations difficiles avec les États membres de la commission mixte du JCPOA et indirectement avec les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dans un message émis le dimanche et lu par le représentant spécial de l'Iran lors d'une cérémonie commémorant le 26e anniversaire dramatique du génocide de Srebrenica, a déclaré fière la République islamique d'Iran d'être aux côtés du peuple opprimé de Bosnie-Herzégovine depuis leur indépendance. Le message de Zarif, qui a été lu hier par le représentant spécial de la République islamique d'Iran, Ebrahim Tahirian, en présence de représentants de différents pays à la commémoration des victimes de Srebrenica, se lit comme suit. À l'occasion du 26e triste anniversaire du génocide des milliers d'innocents de Bosnie-Herzégovine, dans le crime horrible de Srebrenica, je salue les âmes sublimes de ces martyrs et réitère ma sympathie et ma solidarité avec le gouvernement et le peuple de Bosnie-Herzégovine, en particulier avec leurs familles. En 1995, plus de 8 000 habitants de la ville musulmane de Srebrenica, hommes et adolescents, en Bosnie-Herzégovine, ont été tués par l'armée des Serbes de Bosnie en une journée. Il s'agit de la pire tuerie sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, les Nations Unies avaient déclaré Srebrenica zone protégée. À ce jour, les 400 casques bleus néerlandais déployés pour assurer la sécurité dans la région n'ont pas réagi. Aux tueries. L'actualité, c'est également les forces afghanes qui ont repoussé un assaut des talibans, infligeant de lourdes pertes au groupe dans la province septentrionale du pays de Tahar. Des responsables locaux ont déclaré que 55 forces de talibans avaient été tuées et 90 autres blessés, qualifiant les pertes infligées au groupe de sans précédent. Le ministère afghan de la Défense a toutefois déclaré que plus d'une douzaine de combattants talibans avaient été tués lors de frappes aériennes de l'armée de l'air afghane à la périphérie de Talukan, le centre provincial de Tahar. De plus en plus, le retrait précipité et irresponsable des États-Unis d'Afghanistan, après près de deux décennies d'intervention militaire, prend l'allure d'une ruse de guerre destinée à déstabiliser par guerre civile, interposer les frontières des trois pays voisins que sont l'Iran, la Russie et la Chine, selon les commentateurs. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. La milice terroriste qui décapitait les Iraniens sur l'autre CIA, Mossad. La participation d'anciens et d'actuels responsables des États-Unis à la réunion du groupuscule terroriste de l'organisation des Moudjahidine Khalq, OMK, communément appelée Monoferine, hypocrite en Iran, a suscité les critiques virulentes des analystes américains quant à l'hypocrisie de Washington. Max Abrahams, professeur d'université, analyste du terrorisme et ancien membre du Conseil en Foreign Relations, a fustigé par deux tweets la position de l'administration américaine envers l'OMK. Répondant au tweet d'une journaliste qui avait écrit « L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo était parmi les orateurs lors d'un rassemblement de l'OMK à Berlin ». Le groupe haï par les Iraniens figurait sur la liste américaine des organisations terroristes. Max Abrahams a tweeté « Ils valent trop pour être traités de terroristes ». Et puis dans un autre tweet, Max Abrahams a écrit « Lorsqu'il s'agit du changement de régime, la politique américaine se range littéralement du côté de n'importe qui d'autre que le régime, même lorsqu'ils ont peu de soutien local, oppriment les femmes et s'appellent Al-Qaïda. » Dans la foulée, Daniel De Petris, analyste et écrivain chez The Newsweek, The Washington Examiner et The National Interest, écrit dans un tweet « Imaginez être un expert de l'Iran et penser que l'OMK est un mouvement d'opposition populaire et légitime que le gouvernement américain devrait soutenir. Mon Dieu !» Le groupuscule terroriste Monoferine organise chaque année des réunions auxquelles prennent part des personnes qui sont rémunérées pour leur participation. Il y a trois ans, le quotidien britannique The Guardian a écrit dans un article, je cite, « La plupart des participants à cette réunion étaient des ressortissants de l'Europe de l'Est et des réfugiés syriens qui avaient accepté d'y prendre part par la promesse d'un tour gratuit de Paris. » L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le sénateur Bob Mundans et un certain nombre d'anciens ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense de la France et du Royaume-Uni ont participé à l'édition 2021 de la réunion de l'OMK qui s'est tenue virtuellement. Le groupuscule terroriste Monoferine figurait jusqu'il y a quelques années sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne et des États-Unis. Mais il s'est fait en retirer en payant des sommes faramineuses de pots de vin à certains politiciens occidentaux. Selon un reportage de la chaîne de télévision NBC, l'OMK paie des milliers de dollars aux politiciens américains pour que ces derniers prononcent des discours lors de ces réunions. Les médias américains réaffirment que John Bolton était parmi les Américains qui ont reçu de grosses sommes d'argent en échange d'un discours lors d'une réunion du groupuscule terroriste des Monoferine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'organisation des Moujahidines Khalq, OMK, connue en Iran sous le nom de Monaferine, hypocrite, est un groupe terroriste, un groupuscule terroriste qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iranien. En fait, des attentats terroristes perpétrés contre à la fois des civils et des responsables politiques du pays. Ils ont tué le chef du pouvoir judiciaire du pays, le docteur Shahid Beheshti, et 72 autres hauts fonctionnaires du pays au cours de, si vous voulez, d'un attentat à la bombe. C'était en 1981, plus précisément le 30 août 1981, qu'ils ont tué le président de la République de l'époque, Mohammad Ali Rajaoui, et son premier ministre, Mohammad Javad Bahonar. Ils ont perpétré également, comme je viens de vous le dire, d'autres attentats terroristes contre plusieurs milliers de civils militaires et politiques du pays. Ce groupuscule terroriste est présent dans plusieurs pays européens, très particulièrement en France, en Grande-Bretagne et très particulièrement encore en Albanie, où ils ont en fait une base. Et permettez-moi de faire cette précision également que lors de la guerre imposée par l'ancien régime irakien contre l'Iran, une guerre qui a duré 8 ans, de 1980 jusqu'à 1988, ce groupe terroriste s'est installé en Irak, c'est-à-dire en Irak pour aider l'agresseur, pour aider en fait le régime qui avait lancé une agression contre l'Iran, en l'occurrence le régime de Saddam Hussein. En fait, ils avaient créé des bases militaires en territoire irakien, mais après, si vous voulez, de l'invasion de l'Irak, et après, si vous voulez, de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement à Bagdad, qui représentait, si vous voulez, le peuple irakien, il y a eu cette exigence de, si vous voulez, de demander, si vous voulez, à ce groupe terroriste de quitter le territoire des Irakiens. Maintenant, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ils ont en fait leur base en Albanie, c'est ce pays européen, et ils continuent toujours de bénéficier du soutien des pays européens et également et surtout des États-Unis. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse un philosophe français spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortillier. M. Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour M. Nerosti, bonjour à tous vos auditeurs et aussi bien sûr à votre invité. Je crois être M. Luc Michel.
Vous l'avez bien dit, M. Dortillier. L'autre invité de la mission d'aujourd'hui, c'est M. Luc Michel, géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec nous pour cette émission depuis Bruxelles. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe. C'est un plaisir. Je salue particulièrement, cordialement, le professeur Dortillier, avec qui j'ai plaisir de me retrouver sur vos antennes aujourd'hui.
Merci. Monsieur Michel, je viens de lancer le sujet. J'aimerais que vous nous parliez un peu, si vous voulez, de ce groupuscule terroriste et de ses activités et également du soutien, de l'assistance qu'il reçoit, si vous voulez, de certains pays européens et très particulièrement des États-Unis. J'ai oublié une chose également, Luc Michel, en fait, du soutien qu'il reçoit également de la part d'un autre pays de la région, l'Arabie Saoudite.
Écoutez, comme le thermomètre révèle la fièvre, l'histoire de ceux qu'on appelle les Moudjahidines du peuple, parce qu'on ne connaît pas le nom de l'OMK en Europe, eh bien, ça révèle l'iranophobie. Ça révèle l'iranophobie comme le procès d'Anvers contre un de Bourdieu, enlevé en Allemagne et jugé par la Belgique. comme une série d'autres événements médiatiques, les médias européens, en particulier les médias français et allemands, sont totalement imprégnés de cette iranophobie. Cette iranophobie contre l'Iran, c'est le pendant de ce qu'est la Russie, de ce qu'est la russophobie contre la Russie de Poutine. Continuellement, on diabolise et on méprise l'Iran. Le soutien que reçoit l'OMK en Europe, et en particulier en France, en Belgique et en Allemagne, ils symbolisent cela. En fait, ils sont l'espoir de certains milieux atlantistes en Europe, le centre de l'iranophobie étant les États-Unis. Ils sont l'espoir d'organiser dans votre pays, l'Europe, une révolution de couleur, un changement de régime communiste. Ils ont tenté le coup à deux reprises lors des dernières législatives, ça n'a pas marché évidemment, et ouvertement, toutes les sanctions économiques contre l'Iran, ils ont un but caché, c'est tout d'abord, c'est de soulever la population contre la République. Voilà ce qui se passe. Les Français sont en pointe dans cette iranophobie. Ils ont, permis aux Moudjahidines du peuple d'organiser un congrès à Villepinte. C'est à cette occasion qu'a eu la provocation qui a conduit au procès d'Anvers. Il faut savoir que la France, depuis les années 1980 au Liban, c'est l'ennemi, peut-on dire, héréditaire de l'Iran. En 1986, le service Action du SDEC, aujourd'hui c'est la DGSE, mais c'est le même service, avait organisé un attentat terroriste pour tenter de détruire par explosif notre ambassade à Beyrouth, sous ordre de François Mitterrand. Ça a échoué. L'histoire, elle est connue, elle est révélée, parce qu'il y a eu un livre qui s'appelle « Les tueurs de la République ». Il y a tout un chapitre qui est consacré là-dessus. Il y a eu d'autres opérations terroristes depuis, évidemment. Ça va jusque dans les médias. Par exemple, il y a actuellement une série à succès qui est faite pour conditionner l'opinion publique. Elle s'appelle « Le bureau des légendes ». Elle est coproduite par Canal Plus et directement la DGSE qui a donné des informations permettent qu'on reconstitue ses locaux en studio, etc. La DGSE s'est présentée comme des chevaliers blancs. Ils s'attaquent au FSB russe. Ils s'attaquent évidemment à Daesh. Ils ne disent pas que Daesh existe avec la complicité précisément des Occidentaux. Mais surtout, il y a toute une série qui est consacrée à l'Iran. Vous êtes des tortionnaires, des tortureurs, le régime est quasiment dictatorial, et vous êtes en train de préparer, bien entendu, l'accession à l'Iran de la bombe atomique. C'est directement de la propagande purement atlantiste, mais vous devez savoir que la série Le Bureau des légendes, elle est tellement adaptée d'une série israélienne. Aux États-Unis, il y a la même phénomène, il y a une série qui s'appelle Homeland, et qui est directement tiré d'une série du même nom en Israël. Voilà donc ce qui se passe. Ces terroristes, en fait, ils sont un prétexte, un moyen, une utilisation. On doit savoir encore quelque chose. Il y a 20 ans qu'on organise des révolutions de couleur. Les Américains, ils disent des Egyptians. Au départ, on employait soi-disant des soulèvements de la société civile. Ils étaient jusqu'à un stade avancé pacifique. Aujourd'hui, c'est terminé. Le terrorisme est directement un élément de ces révolutions de couleur. On vient encore de le voir au Belarus. Le président Loukachenko, il subit avec des marionnettes de l'Union européenne et des Américains une révolution de couleur. Eh bien, depuis quelques jours, il y a un mouvement terroriste. On a tenté d'assassiner des journalistes pour Loukachenko. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Et voilà le rôle, donc, ces gens qui se présentent d'ailleurs en Europe sous le nom de Moudjahidine du peuple. Ce qui les rend sympathiques, les Moudjahidines qu'on appelle les soviétiques dans le pays de l'atlantisme, évidemment, c'est très populaire. Et du peuple s'attend à leur donner une légitimité et à dénier toute légitimité à l'Iran. C'est un scandale, malheureusement, qui n'est pas prêt à traiter. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a à Bruxelles. À Bruxelles, il est quasiment impossible d'organiser une manifestation. C'est le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Moi, j'ai fait 20 ans de la politique. Je suis encore actif de la politique électorale. Je suis encore actif dans la politique internationale. Je n'ai jamais eu l'autorisation d'organiser une manifestation. Mais quasiment toutes les semaines, ces moudjahidines du peuple défilent devant le Parlement européen, ils défilent devant la Commission européenne, ils défilent devant les principaux bâtiments au centre de Bruxelles, ils distribuent des tracts, ils interpellent les gens avec compteurs. Tout cela, bien entendu, est autorisé, non pas directement par la ville de Bruxelles, mais la ville de Bruxelles, elle a reçu des ordres du ministère belge des Affaires étrangères, qui est l'étroit associé du Quai d'Orsay. Et bien entendu, de l'OTAN, la Belgique, c'est aussi le siège de l'OTAN.
Monsieur Dorsiguier, vous venez d'entendre Luc Michel qui disait que voilà, ce de groupuscule terroriste mène librement de ses activités à Bruxelles le siège. Monsieur Luc Michel a précisé ce point, le siège de l'OTAN et de l'Union européenne, alors que d'autres manifestations sont presque, si vous voulez, impossibles. Dans la capitale de l'Union européenne et de l'OTAN, idem pour certains autres pays européens, ce groupe mène librement ses activités en France. Et je viens de le dire tout à l'heure, voilà, l'Albanie s'est transformée en quelque sorte en principale base de ce groupe terroriste. Et idem également pour l'Allemagne, même son de cloche à Londres, en Grande-Bretagne, alors que en fait l'Iran, le peuple iranien, est la principale victime de ce groupe terroriste. Comment peut-on expliquer, M. Dorsiguier, le fait que ce groupuscule mène en fait en toute tranquillité et en toute liberté et ses activités, si vous voulez, dans de ces pays, sans oublier bien sûr les États-Unis?
Eh bien, la réponse à cette question que vous posez avec M. Luc Michel, que je remercie en particulier de la comparaison qu'il fait entre l'activité des moudjahidines du peuple et l'opposition qui est faite au président Loukachenko en Biélorussie. C'est tout à fait dans le même style. Mais je dirais que cette organisation terroriste est une menace, savoir les monafirines, les hypocrites, sont une menace permanente, et sont une menace permanente, non pas seulement, bien sûr, contre la République islamique d'Iran, après la révolution de l'imam Khomeini, mais ils sont une menace apparue avant la révolution. C'est-à-dire, dès 1965, cette organisation projetait des attentats en Iran, et donc était mise en réserve, voyez-vous, pour déstabiliser le pays. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est en réalité contre la nation iranienne et bien sûr contre la République islamique d'Iran qui la représente. Ceci est très important, car il s'agit là non pas d'une déviation, mais il s'agit véritablement d'un acte de naissance. Toujours cette organisation, présidée par la veuve Mariam Jani, a toujours bénéficié de soutien. Voyez-vous, il est quand même étonnant de voir qu'une organisation qui a procédé, je crois, en 1965, à l'assassinat de quelques Américains en Iran, qui appartenait à une compagnie, soit par Mme Clinton en 2012, ne soit plus considérée comme une organisation terroriste. Il faut dire que la réponse, voyez-vous, elle est dans ce que j'ai constaté en France. Par exemple, les moudjahidines du peuple, c'est ce qu'on appelle les moudjahidines, donc, sont reçus, non seulement ils pourraient être reçus à l'Assemblée nationale, bien sûr dans des ministères, mais ils sont reçus souvent, je dirais régulièrement, au palais du Luxembourg, c'est-à-dire au siège du Sénat. Et chez nous, le siège du Sénat, vous savez, qui est élu, qui est une élection indirecte, c'est pas une élection directe, populaire, est en réalité le siège d'une grande maçonnerie. C'est-à-dire que ça montre que cette organisation n'a pas du tout une origine, une structure nationale iranienne, quelle qu'elle soit, y compris d'opposition. Non, elle a une structure étrangère à l'Iran, opposée à l'Iran, et une structure, je dirais, internationale, qui est un jouet, dès le début, entre, justement, les mains de ceux qui la dirigent. Elle a, je dirais qu'elle a séduit le monde en France, parce qu'elle se présente avec un air de laïcité, de féminisme même, puisque je crois que la plupart des personnalités de son comité directeur sont des femmes, tout ça. Voyez-vous, tout ceci, ce sont des peintures, des figurines, voyez-vous, pour disons, à la fois caricaturer l'Iran réel et en même temps, disons, donner une image idéale, idéaliste de l'Iran. Des gens comme l'abbé Pierre, chez nous, par exemple, je vous ai posé, qui sont moins connus aujourd'hui, mais enfin, qui ont marqué leur temps ici en France, dans la gauche ou dans les milieux démocrates, voyez-vous, eh bien, étaient favorables au Moudjahidin, ici, au Moudafirin, car il s'agit d'une immense occupation et de terrorisme et de propagande. C'est-à-dire que c'est en réalité une organisation qui n'a rien d'iranien. Toutes ces personnes sont des poupettes, comme on dit. Je reprends exactement ce qu'a dit Michel à propos de la Biélorussie, par exemple. On voit ces manifestants, vraiment, ils n'ont rien de commun contre le président Loukachenko, ils n'ont rien de commun avec la réalité du peuple de Biélorussie. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez bien dit qu'il y a eu énormément de morts, d'assassins, d'assassinats en Iran, c'est commis par ces gens-là. Eh bien, ces gens-là sont perpétuellement lavés. Ils ont énormément d'argent. Ils en disposent beaucoup, j'ai appris par vous-même, justement, d'ailleurs, par ce que Prestige a publié. Ils avaient 34 hectares, je crois, à leur disposition en Albanie. Bon, alors quel est véritablement le sens de ce soutien? À mon avis, c'est un sens qui n'est pas du tout à chercher dans une querelle de partis politiques, non, pas du tout. Il ne s'agit même pas d'extrémisme.
Luc Michel, non, je vous en prie, monsieur Dortiguet.
Voyez-vous, bon, c'est-à-dire, disons, est...
Merci beaucoup, Monsieur Dortiguet. Luc Michel, en fait, vous l'avez dit, et Pierre Dortiguet également l'a souligné, ce groupe continue, si vous voulez, de bénéficier de toujours du soutien des gouvernements, au moins de certains gouvernements européens, des États-Unis et également de l'Arabie Saoudite. Luc Michel, sous la précédente administration américaine, c'est-à-dire l'administration Trump, ce soutien accordé à ce groupuscule terroriste était, si vous voulez, ouvert. Il y avait dans l'entourage du président américain de l'époque ceux qui soutenaient ouvertement ce groupuscule terroriste. Vous en souvenez, les propos de John Bolton, de conseiller à la sécurité nationale des États-Unis de l'époque. Et également, vous vous en souvenez des propos du conseiller et de l'avocat de Donald Trump, qui participait même, si vous voulez, à ce congrès, à ces réunions de ce groupuscule terroriste à Paris et ailleurs. Mais quand même, ils ont échoué dans leurs objectifs, Luc Michel, n'est-ce pas?
Écoutez, ils sont utiles et il ne faut pas espérer que Biden va changer. Biden, il marche dans les pas de Trump dans toute la politique internationale, et le grand parrain des révolutions de couleur, c'est un certain George Soros. George Soros, aujourd'hui, il a un pied à la Maison Blanche, parce que la vice-présidente Kamala Harris est très très proche de son fils Alexander Harris, qui est Alexander Soros, qui est basé à Bruxelles d'ailleurs, et donc le soutien va continuer. Il faut savoir que ce soutien des groupes terroristes, il est organisé directement par les gouvernements et les ministères des Affaires étrangères. J'ai cité l'opposition à Loukachenko, mais je vais citer encore un exemple révélateur en Afrique. Il y a un groupuscule opposé au président équato-guinéen qui s'appelle la COREP. Il est constitué d'équato-guinéens qui ont quitté le pays il y a plus de 30 ans. Eh bien, ils sont parrainés en 2015. Par exemple, ils ont été officiellement invités au congrès du Parti socialiste français par le ministre des Affaires étrangères Fabius et par le Premier ministre Manuel Valls. En 2018, le chef de la COREP, il est basé en Espagne, il est ouvertement lié au secret espagnol. Il a organisé 4 coups d'État terroristes contre la Guinée équatoriale avec l'action de mercenaires étrangers. Ils ont tous échoué. Eh bien, ce chef, il s'appelle Severo Moto, il a été officiellement reçu à Bruxelles par le Parlement européen. Il ne faut donc pas s'étonner que ces méthodes qui sont générales soient appliquées à l'Iran. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont 3 bêtes noires, c'est Moscou, Pékin et Téhéran. Contre eux, ils ont organisé 3 coalitions militaires, l'OTAN du Proche-Orient et le Quad. Et bien entendu, ils ont toujours l'espoir de ces révolutions de couleur. en particulier en Iran, on insiste lourdement dans les médias occidentaux sur le fait que la population subit de plein fouet la crise économique. On ne raconte pas que la crise économique est provoquée par les sanctions, justement, comme dans un autre pays, le Venezuela, où là aussi les Américains et les Européens soutiennent un groupuscule terroriste. Et il y a un président qui s'est proclamé président du pays, qui est un fantoche américano-atlantiste, Guaido. C'est la même chose partout. Il ne faut donc pas s'étonner que les méthodes qui sont employées depuis 20 ans sur les quatre continents soient employées depuis 2010 contre l'Iran. Arriver à l'instabilisation de l'Iran, c'est l'un des objectifs majeurs de la politique étrangère américaine.
Merci.
Les Européens et les Atlantistes, ce sont simplement les porteurs de valises des Américains. Certains milieux industriels français souhaitaient d'ailleurs collaborer économiquement avec l'Iran. On les a obligés à s'en aller. C'est comme
Merci
ça que
beaucoup.
Ça se passe. Et donc, il ne faut pas attendre grand-chose de tous ces gens. Le soutien, bien entendu, au Moudjahid du peuple, il va continuer. Les manifestations vont continuer. Simplement, tout cela, ce sont des millions, si pas des milliards de dollars qui sont dépensés en vain.
Merci beaucoup. Luc Michel, vous soulevez en fait un point intéressant. Permettez-moi d'avoir l'approbation de M. Dortiguet également sur ce sujet. M. Dortiguet, nous avons au maximum deux minutes de devant. Et nous, Luc Michel estime que voilà, l'objectif, ça s'inscrit dans le cadre de cette politique de déstabilisation, que ce soit, si vous voulez, à propos de l'Iran, à propos de l'Afrique et ailleurs dans le monde. Et votre autre point de vue sur ce sujet, s'il vous plaît.
Notre ami Jean-Luc Michel, c'est que la crise économique aujourd'hui mondiale amène justement ceux qui ne peuvent pas juguler cette crise, qui l'ont créée et ne peuvent pas la maîtriser, à vouloir, disons, faire une fuite en avant. Cette fuite en avant, c'est le soutien au terrorisme, c'est-à-dire ajouter, si je puis dire, du désordre à leur propre désordre. Voilà exactement, disons, la formule ou la situation dans laquelle se trouve ce qu'on aurait appelé autrefois le capitalisme international. Vous savez, les formules sont anciennes, mais elles sont toujours réelles. Je crois que c'est un signe de faiblesse. Le soutien au terrorisme, en particulier des mafiérines, est un signe de faiblesse, justement, de cet ordre nouveau qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que, justement, ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent ces terroristes, en réalité, disons, montrent qu'eux-mêmes sont incapables, parce qu'il y a un ordre, ils veulent imposer un ordre, mais ils créent du désordre, en perpétuité.
Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, ami, à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Amis auditeurs, dans cette émission consacrée comme les trois émissions précédentes à Kashan, nous vous présentons le village célèbre et touristique d'Abyané qui se trouve à proximité de cette ville
de la province d'Ispahan. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Abyané est un village montagnard de la région de Natanz, proche de Kashan, province d'Ispahan. Abyané se caractérise par la couleur ocre de ses maisons liée à la richesse du sol en oxyde ferreux. Les maisons sont en effet construites en briques de terre séchée, assemblées par un mortier d'eau, de paille et de terre, réalisant un pisé. Le village est également connu pour les couleurs vives et bariolées des costumes traditionnels portés par les femmes du village, dont les origines sont très anciennes. Une forteresse sassanide surplombe le village. Les revenus des habitants sont tirés essentiellement d'une agriculture montagnarde rendue difficile par la configuration des lieux et de la vente aux touristes de produits et d'artisanaux locaux. Véritable tracteur animal, peu coûteux, l'âne est utilisé pour toutes sortes de tâches sur les sentiers pentus, impropres au passage de véhicules motorisés. Conscient de la valeur patrimoniale du village, qui compte parmi les plus anciens du pays, l'Organisation de l'héritage culturel d'Iran a lancé, depuis 1995, un programme de restauration des maisons dont certaines sont en piètre état, ainsi qu'un programme de fouilles archéologiques. Niché au pied du mont Calcas, 3899 mètres, Abyané jouit d'un climat frais en été, mais l'hiver y est particulièrement rude. La plupart des habitants le désertent durant cette période, transformant alors le village en village fantôme. Le village se situe en hauteur de manière à échapper aux inondations et aux tempêtes hivernales. Les maisons sont construites les unes contre les autres sur les parois rocheuses, ce qui les protégeait des attaques et du brigandage. La chaîne de montagnes Calcas s'étend de Kashan à Ardistan sur une longueur de plus de 100 km et y est composée essentiellement de roches magmatiques, pyroclastiques formées de projections volcaniques et de quelques roches sédimentaires datant de l'ère tertiaire. Dans sa partie centrale, son origine date de l'époque précambrienne paléozoïque. Bien que Calcas signifie « vautour » en persan, il est possible que ce nom provienne de la présence de Kassites, ancien peuple de Mésopotamie. En ancien assyrien, Kalkassi se traduit par « ville ou terre des Kassites ». Le village d'Abyané s'étend le long d'une rivière. Bien que le village lui-même soit situé sur des hauteurs, dans le passé, trois châteaux ont été construits pour protéger les habitants des ennemis. De plus, la configuration du village le protège des vents forts et des inondations. Le plus ancien bâtiment d'Abyané est le temple du feu zoroastrien Arpak, qui a été construit pendant la période achéménide, 550-330 avant Jésus-Christ. En fait, ce temple du feu était un temple religieux important pour ses habitants majoritairement zoroastriens jusqu'à ce que l'islam soit pleinement accepté par les habitants. Mais sa période d'or était pendant la dynastie Safavide. Abyané est comme un musée anthropologique et architectural vivant. Il présente un modèle intéressant d'adaptation à l'environnement. Semblable à d'autres villages montagneux d'Iran tels que Massoulé ou Ouramantart, Abyané a une architecture en escalier. Le toit de chaque maison est la cour de celle au-dessus. Mais Abyané a conservé son architecture traditionnelle, sa culture, ses cérémonies, ses vêtements, sa langue, etc. C'est pourquoi ce village historique est inscrit sur la liste indicative du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Abiané a une texture compacte avec des ruelles raides et étroites. Situé sur le versant de la montagne, les bois, l'argile et la paille sont utilisés pour la construction des toits. Le terrain tout autour du village contient des oxydes de fer qui donnent une couleur rougeâtre unique. La simplicité des maisons et des gens présente une image de la vie dans l'Iran rural. Par exemple, une seule pièce peut être utilisée comme salon, salle à manger, chambre d'amis et chambre à coucher. Les pièces utilisées pendant les saisons froides sont architecturalement différentes de celles utilisées pendant les saisons chaudes. Pour éclairer toutes les pièces de la maison, il y a plusieurs petites fenêtres autour des murs. La taille des pièces, des portes et des fenêtres indique la simplicité de la vie dans cet ancien village. Il y a de beaux dessins, des versets ou poèmes coraniques et parfois les noms des propriétaires et des maçons gravés sur les portes. Ces poèmes montrent une bonne image de l'ancienne culture iranienne. De nombreuses façades datent de la dynastie Safavide. Il existe de petites places assises qui permettent aux passants ou aux résidents de se reposer un moment. La plupart des maisons d'Abiané ont des balcons qui font saillie dans les ruelles et décorés de fleurs colorées. L'un des designs les plus accrocheurs de la plupart des portes en bois anciennes en Iran est celui des hortoirs de portes. Chaque maison a généralement une paire de portes qui sont équipées de différents hortoirs. L'un d'eux a une forme longue, tandis que l'autre a une forme ronde. Mais pourquoi cette différence? Il y a une histoire intéressante derrière ça. Traditionnellement, les hortoirs de portes de forme ronde sont strictement destinés à un usage féminin, tandis que les hortoirs de portes de forme longue sont destinés à un usage masculin. En fait, ces hortoirs à deux portes ont des sons différents, ce qui indique au propriétaire si un homme ou une femme frappe à la porte. Une femme propriétaire répond à la porte si l'appelant est une femme et vice-versa. S'il n'y a pas d'homme dans la maison, la femme peut être préparée et porter un hijab si un homme se trouve derrière cette porte. La langue locale des habitants d'Abiané est le parthpahlavi. Ils sont extrêmement attachés à honorer leurs traditions. Peu importe le niveau d'éducation d'un local, il ou elle porte le costume traditionnel d'Abiané à son retour au village. Leurs vêtements traditionnels sont des exemples de style de grande antiquité. Une femme d'Abiané a hérité sa robe de mariée de sa grand-mère. De même, les femmes portent généralement une longue écharpe blanche qui couvre les épaules et le haut du tronc avec un motif fleuri nommé charkat et une jupe sous le genou et les hommes à pantalon très ample avec un manteau. Ces personnes maintiennent fortement ce costume traditionnel. Bien que ce village soit de petite taille, il a beaucoup d'histoires inédites dans l'esprit de ses habitants et il y a beaucoup de choses mystérieuses à explorer par les visiteurs qui aiment découvrir et explorer de nouvelles choses sur le passé. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre attention. Soyez nombreux la semaine prochaine aussi. Nous vous parlerons d'une autre ville de ce pays des merveilles qu'est l'Iran. D'ici là, au revoir et bonne semaine. We'll be right back.
Thank you.